Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. L'émission a été préparée par Mathieu Maury et Laurent Godino, et Claude est à la technique, comme d'habitude. L'émission de ce soir est consacrée au monde hospitalier et système de santé. L'émission est intitulée « L'hôpital public, quel avenir ?». Donc, trois parties dans cette émission. Une première partie sur l'état des lieux. On va parler de l'état des lieux du système de santé de l'hôpital public. Deuxième partie sur les différentes lois, comment elles se traduisent concrètement sur le quotidien des patients et puis le quotidien des soignants. Et puis on verra ensuite un peu quelles propositions on peut faire. Donc ce soir, pour discuter, nous avons deux invités. Nicolas Bellorget, donc, qui est sociologue au CNRS, au labo SAGE. Qui a écrit notamment l'hôpital sous pression, enquête sur le nouveau management public. Donc on aura l'occasion d'en parler.
Bonsoir.
Et puis Jean Vigne, donc, qui est secrétaire général de Sud Santé Sociaux.
Bonsoir.
Donc vous pouvez appeler l'émission au 01 40 05 06 10 si vous avez une question à nous poser. Et puis vous pourrez retrouver l'émission, comme toutes les précédentes, sur le site internet de la Fondation Copernic, donc www.fondation-copernic.org. Donc l'émission sera rediffusée également mercredi prochain à 7h du matin. Alors, on se faisait la remarque que le système de santé, et plus particulièrement l'hôpital public, est un sujet central d'un certain nombre de lois qui ont été votées ces dernières années et qui ont introduit une logique gestionnaire qu'on avait, enfin une certaine gestion qu'on n'avait pas auparavant. Donc, on ne parle plus d'ailleurs d'hôpital, mais d'établissement de santé aujourd'hui. La loi, on va beaucoup parler certainement de la loi HPST, donc hôpital, patient, santé, territoire, qui a élargi en fait les missions de l'hôpital à des missions qu'elle n'avait pas forcément l'habitude de prendre en compte, et qui peuvent être exercées par des établissements de santé publics ou privés. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle loi de santé qui devrait être examinée par le Parlement en 2015, qui s'articule autour de trois axes. Donc prévenir avant d'avoir à guérir, faciliter la santé au quotidien, et innover pour consolider l'excellence du système de santé. Donc on va voir un peu, on va voir quelle est la logique de toutes ces lois, quels en sont les objectifs, quel système de santé finalement derrière ça on souhaite pour les patients, et puis quelles conséquences au quotidien pour les soignants. On va peut-être commencer par essayer de comprendre aujourd'hui comment est financé finalement l'hôpital public. Donc Nicolas, vous pouvez commencer par répondre un peu à cette question.
Oui, alors l'hôpital public est financé essentiellement par la sécurité sociale, et ce à quoi on assiste depuis une trentaine d'années, c'est une modification des modes de tarification. Alors plutôt que de rentrer dans le détail des lois, j'aimerais souligner une évolution de longue période qu'on peut faire remonter au souci de maîtriser les dépenses publiques. Donc à partir du milieu des années 70, et ça s'est solidifié à partir des années 80. On peut prendre comme borne la mise en place de ce qu'on a appelé le programme de médicalisation des systèmes d'information, le PMSI pour les intimes, qui est un outil de gestion qui a été lancé en 1982, qui a débouché une vingtaine d'années plus tard environ sur l'actuelle tarification dite à l'activité. Alors, tous ces noms un petit peu barbares ont droit à...
La T2A.
Voilà, la T2A de son petit nom. On aura quelques explications aussi. L'idée, c'est qu'avant, on était dans un système de financement dit rétrospectif. C'est-à-dire que ce que les soins coûtaient, cet argent était donné à l'hôpital après coup, rétrospectivement, les budgets étaient rééquilibrés de manière à pouvoir continuer l'année suivante. Ce qui avait quelques inconvénients, comme certaines inégalités de dotation entre établissements, certains établissements dépensaient un petit peu plus qu'ils auraient dû, etc. Mais l'avantage, c'est que tous les coûts des soins étaient couverts et on pouvait soigner tous les patients, quel que soit leur état de santé, quel que soit le coût que cela entraînait. Donc il y avait, les conditions étaient propices à un véritable service public en période d'abondance, on peut dire.
D'accord.
Le changement qu'il y a eu donc à partir du milieu des années 70, ça a été une orientation de politique générale réduisant les dépenses publiques. Et donc tout le système de financement de l'hôpital a été petit à petit réorienté par cet objectif de moindre dépenses. Et donc le PMSI, dont je parlais tout à l'heure, ça a été une façon de codifier petit à petit l'activité, enfin ce que faisaient les soignants, ce qui entraîne aussi, on en reparlera plus tard pour pas tout mélanger, des changements très importants dans les relations de pouvoir à l'hôpital.
C'est-à-dire que chaque acte a un code, c'est ça, on attribue...
Voilà, on le code et on lui attribue un montant, une certaine valeur.
Ouais, ouais.
Mais alors du coup, on est passé à un financement prospectif, c'est-à-dire que un acte donné est réputé coûter tant. Et donc, quand vous faites maintenant tel acte à l'hôpital, l'hôpital est rémunéré tant pour cet acte-là. Je dis bien cet acte, et donc vous remarquez tout de suite que ça commence à ressembler à la médecine libérale, où c'est une tarification à l'acte. C'est-à-dire, vous faites un acte, vous êtes payé une fois, vous faites trois actes, vous êtes payé trois fois.
D'accord.
D'où un risque qu'il n'y avait pas auparavant dans l'hôpital, c'est la suraccumulation des actes pour rapporter de l'argent à la structure.
D'accord. Ouais.
Les autres risques avec ce paiement prospectif, et ensuite je vais passer la parole, c'est que comme l'enveloppe n'est plus ajustée après coup, l'ajustement désormais risque de se faire de deux façons. D'abord sur la qualité des soins, c'est-à-dire que les soins qui coûteraient plus cher que ce que l'hôpital va être rémunéré, eh bien on va avoir tendance à pas les faire. Où on va avoir tendance à les faire plus vite. On va par exemple mettre moins d'infirmières pour sécuriser une opération, moins d'infirmières pour s'occuper des patients. Tout ça, ce sont les patients qui vont le payer en bout de course, donc baisse de la qualité.
D'accord. Ouais.
Et le deuxième risque, c'est bien sûr que les structures vont être incitées. Alors je dis pas qu'elles le font forcément, mais cette tarification met en place une incitation à sélectionner les patients au détriment des plus lourds, des plus coûteux. Donc des patients polypathologiques ou des patients plus âgés ou des patients qui auront une trajectoire de vie plus heurtée vont désormais être vus comme des poids lourds, des boulets. Et les équipes soignantes sont incitées à ne plus les prendre en charge de la même façon que les autres ou à avoir différentes stratégies d'évitement. Et là, on arrive donc à la remise en cause du service public puisqu'on débouche sur une logique commerciale de rentabilité des patients.
D'accord. Donc on reviendra tout à l'heure sur les conséquences vraiment sur les patients. Jean Vigne, vous avez commencé votre carrière en 1978, vous m'avez dit. Donc vous avez vu toutes ces évolutions au sein de l'hôpital.
Oui, je ne serai absolument pas en contradiction avec les propos qui viennent d'être tenus et j'essaierai peut-être d'y mettre un peu de chair, si je puis dire. Oui, dans les années 80, en fait, les doctrines qui s'opposaient, c'est entre la maîtrise comptable et la maîtrise médicale des dépenses de santé. C'est le débat qui a fait rage à l'époque, et c'est la maîtrise comptable aujourd'hui qui prime sur le système.
Ce qui, je me permets de rajouter, est complètement vrai, et en même temps qui montre le côté étrange de l'appellation PMSI, programme de médicalisation des systèmes d'information, alors qu'en fait, c'est pas la médicale qui a gagné, c'est la comptable.
C'est la comptable.
À mon avis, c'était plutôt une présentation marketing.
Voilà. Donc c'est vrai que c'était une époque de budget qui était dit inflationniste, mais en même temps qu'on arrivait à équilibrer en réponse à une demande de soins, à des besoins de soins par rapport à une population, et qui effectivement demandait à une époque certains rééquilibrages, d'ailleurs l'effort a été fait pendant une dizaine d'années, un certain assainissement des pratiques. Cet effort-là a été fait très rapidement par les établissements. Non, ce qu'on voit, bon, pour arriver directement sur la T2A, Par exemple, on est dans le découpage. On n'a plus, plus affaire à un patient dans sa globalité. On va de plus en plus s'intéresser à une pathologie, à un organe. Donc, on va découper.
À une somme d'actes.
Et donc, on va chercher l'acte qui rapporte. Mmh. Par exemple, en gériatrie, la mycose du gros orteil rapporte.
D'accord.
Donc,
ouais.
Sur les patients qui vont être admis en gériatrie, on va trouver pléthore de mycose du gros orteil pour arriver, et là, il faut, je mets des guillemets, à rentabiliser l'hospitalisation pour
du
la
patient.
Personne.
Ouais.
On va voir... alors, il y a un autre élément, c'est la charge de T2A, c'est-à-dire que la T2A, en fonction du temps, va plus ou moins rapporter. C'est-à-dire, plus, pour certaines pathologies, plus le patient va rester, moins il va rapporter à l'établissement parce qu'il va y avoir une décroissance des
moyens. D'accord, donc on a intérêt à le faire rentrer chez lui.
Donc on a
affaire,
par exemple, il y a des SAMU, il y a un ancien régulateur des SAMU qui disait que, en fait, c'était un ventilateur qui récupérait des patients, des personnes âgées souvent, dans un établissement qui était sortant pour les emmener à un autre établissement pour recharger, comme il disait, la T2A. Avec toutes les souffrances que ça implique.
Parce bien sûr, oui, un transfert.
L'autre côté qui est compliqué, c'est les patients qui sont atteints de plusieurs pathologies. Donc arriver à faire le tri à l'intérieur, à voir lesquelles seront rentables ou pas. Et c'est là qu'on commence aujourd'hui à avoir des tris sur des pathologies rentables et des pathologies non rentables. Donc le secteur privé lucratif, par exemple, a très vite vu... vu l'aubaine de cette histoire, il y en a aujourd'hui des secteurs entiers géographiques où, pour certaines spécialités, on ne trouve plus que des cliniques privées lucratives.
D'accord. Par exemple.
Sur l'urologie, ça peut
d'accord.
se trouver, sur la cataracte.
D'accord.
Sur,
ouais. Ouais.
Et alors, je voudrais citer un autre effet très pernicieux, et là où l'économique a masqué le politique, c'est autour de la fermeture des maternités pendant des années, et notamment des centres IVG. Parce que ce que politiquement les pouvoirs n'avaient pas réussi à faire, c'est-à-dire à s'attaquer au centre d'interruption volontaire de grossesse, l'économique l'a fait. Et il a fallu attendre que Mme Bachelot le reconnaisse, je ne sais plus, 3-4 ans, et double la tarification, qui n'est toujours pas suffisante pour répondre aux besoins, pour qu'on s'aperçoive qu'effectivement il y avait eu tromperie en la matière.
D'accord,
sauf qu'entre-temps...
Ouais.
Il y a des dizaines et des dizaines de centres IVG qui ont fermé pour des choix économiques faits par les directeurs.
D'accord.
Oui, c'est sur ces exemples un peu pernicieux.
Bien sûr. Et le législateur, donc là vous citez justement l'exemple de Mme Bachelot qui réintroduit une augmentation de la T2A.
Sur la pression des associations.
Bien sûr. Et est-ce que le législateur a essayé, ou est-ce que c'est l'objectif de la prochaine loi, a essayé d'adapter la T2A ou d'aller...
Avant de répondre à ça, moi je voudrais pointer ce que ça fait aussi au niveau des rapports de pouvoir. Puisque là, on parlait de l'IVG. Avec la T2A, tel ou tel acte, telle ou telle spécialité peuvent être encouragés ou découragés par les pouvoirs publics. Donc ce que ça implique aussi, ce changement de tarification, c'est une espèce de centralisation de la politique de santé. La mise en place d'outils de gouvernement qui n'existaient pas avant au profit du pouvoir central et par le pouvoir central pour orienter ce qui se fait dans le pays en matière de soins. Alors ça pourquoi pas
à travers les agences, vous
direz
vous dire,
oui, ça passe par toute une série d'agences qui contribuent à la définition de la politique. Alors il y a la Haute Autorité de Santé, il y a l'Agence nationale dite d'appui à la performance des hôpitaux, il y a les agences régionales de santé, il y a toute une série d'agences qui ont été mises en place.
Il y a les agences d'audit aussi des établissements de santé.
Il y a toute une série d'audits qui sont mis en place. Alors, vous me direz pourquoi pas faire une politique de santé dans l'absolu. Le problème, c'est que ça reste largement opaque. C'est-à-dire que ce sont ces agences qui décident d'un certain nombre de critères, de montants, de rapports de valeur entre des actes, et que c'est peu ou pas débattu dans la sphère publique.
D'accord.
Alors, avec une autre incidence, c'est le contrôle et imposer des pratiques. Alors, l'exemple le plus récent, c'est par exemple la non prise en compte des psychothérapies par rapport à l'autisme. Donc à ce moment-là, le pouvoir, avec la H, à partir de la haute autorité de santé, peut décider que telle approche clinique sera remboursée ou non, prise en compte ou non. Et comme tu disais tout à l'heure, on a une arme pour orienter les pratiques. Et c'est ce qui est en train de se passer notamment en psychiatrie, mais ce qui arrive aussi en gériatrie, sur tous les systèmes qui sont les moins rentables. Les maladies chroniques, la vieillesse et la psychiatrie.
D'accord. Et du coup, ça entraîne un changement de rapport de force et de pouvoir par rapport à la situation antérieure où c'était les professionnels qui pouvaient dire, d'un point de vue de santé publique, ce qui être bon ou pas pour les patients.
D'accord.
Alors que là,
le gestionnaire,
la philosophie entière du système depuis la mise en place de cette codification, donc avec le PMSI. C'est l'équivalent de ce qu'a été le taylorisme dans les entreprises dans l'entre-deux-guerres.
D'accord.
C'est-à-dire qu'avant, il y avait les ouvriers qui connaissaient un certain nombre, qui avaient des savoir-faire, qui leur donnaient aussi le pouvoir de s'opposer aux dirigeants, de faire grève de manière efficace, parce qu'ils pouvaient être particulièrement utiles, ils avaient des savoir-faire qu'ils étaient les seuls à détenir. Et là, on assiste à l'équivalent de ce qu'a été la codification par le bureau des méthodes dans les entreprises. C'est-à-dire que les savoir-faire des professionnels sont codifiés, protocolisés.
Nous sommes des effecteurs soumis à des protocoles.
Voilà. D'accord. Alors qu'on est dans un domaine où il y a énormément d'incertitudes, de difficultés, et le prix Nobel d'économie s'était appuyé sur cette grande incertitude pour dire, justement, les mieux à même d'arbitrer, de savoir ce qu'il faut faire, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Et il s'était appuyé sur cette incertitude pour dire, on ne peut pas justement déterminer d'en haut ou déterminer par le marché quelle va être la meilleure méthode. C'est sur le terrain que ça doit se décider. Ce sont les professionnels qui sont le mieux placés pour le savoir. Et là, on assiste à l'inverse, c'est-à-dire une volonté de centraliser ceux qui seraient le mieux. Et en fait, on avance à l'aveugle.
D'accord. On va y revenir juste après la première pause musicale la modification de l'organisation et des pouvoirs au sein de l'hôpital public. Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et nous venons d'écouter Johnny Clark avec Rude Boy. L'émission de ce soir traite de l'hôpital public. Quel avenir pour l'hôpital public? Vous pouvez appeler l'émission au 01 40 05 06 10. Avant de reprendre avec nos deux invités, nous allons faire un petit point sur l'actualité de la Fondation Copernic ce mois-ci. La Fondation Copernic appelle avec AC, l'APIS, MNCP et CGT Chômeurs à manifester contre le chômage et la précarité le 6 décembre prochain à 14h, place de Stalingrad à Paris. Sur le site de la Fondation Copernic, vous retrouverez également une analyse du budget 2015 intitulée « Budget 2015, un mauvais tournant ». Avec Attac et les économistes atterrés, donc un budget qui inscrit la France dans une politique manifeste d'austérité contre-productive et disons antisociale. Vous trouverez également une note de la Fondation pour un impôt juste pour une société juste, et puis une tribune stop au matraquage des syndicats qui va plaire à notre invité Jean Vigne. Un matraquage non pas policier mais politique et médiatique. Voilà, donc nous allons reprendre avec nos deux invités, donc Jean Vigne et puis Nicolas, donc sur cette deuxième partie de l'émission. On va davantage traiter cette rationalisation en fait de l'activité dans l'hôpital, quel impact sur les patients, quel impact sur les soignants?
Je préciserai tout d'abord que Sud Santé Sociaux et Solidaire appelle la manifestation du 6. Nous nous y joignons. Mais non, j'avais le Conseil fédéral aujourd'hui et ça a été une volonté du Conseil fédéral de suivre cet appel parce qu'il y a des incidences aussi autour de la santé et du mode de vie. Plus l'accueil justement des précaires et des chômeurs. L'hôpital public accueille sans demander forcément la carte bleue, l'admission.
Ouais.
La psychiatrie, c'était encore plus vrai, puisque les centres médico-psychologiques ne demandaient aucun papier pour rentrer en soins, tels les anciens dispensaires ou les centres de santé, ce qui est en train de se perdre. Mais revenons au débat. Le problème par rapport à ces pratiques, c'est qu'aujourd'hui, nous avons ce que j'appellerais des experts autoproclamés à la HAS qui vont définir quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les pratiques qui vont être autorisées, c'est-à-dire à partir
de... HAS, Haute Autorité
de Santé, les pratiques qui vont être rentabilisables ou non, qui vont être facturables ou non. Alors, première incidence, tout ce qui est informel et immatériel, tout ce qui échappe à la quantification, a déjà été écarté. Dans le domaine qui est le mien, celui de la psychiatrie, ça a été épatant, autour des entretiens infirmiers, etc. Mais y compris dans les soins généraux, puisque une partie des soins, c'est aussi la relation qui est entretenue entre la personne qui est malade et son environnement soignant, que ce soit les ASH, aides-soignants ou infirmiers. Il y a beaucoup de choses qui vont se nouer là. Et comme je suis aussi infirmier, on va parler d'une spécificité qui est en train de disparaître aussi. Nous, quand on parle, enfin, certaines personnes, de science infirmière, c'est pas une science rationalisée qui est écrite, qui est codifiée, etc. Comme me dit un de mes amis qui est infirmier anesthésiste, moi, la science infirmière, c'est quand on rentre d'avoir discuté avec une personne, etc., et qu'on se dit, il y a quelque chose qui va pas. On ne sait pas pointer forcément ce qui va pas. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'à travers les échanges, le colloque avec les autres, quand on va essayer de décrire l'ensemble de ce qu'on a perçu, c'est cet échange-là qui va faire que quelqu'un va pouvoir pointer. Quand on ne peut pas codifier une maladie sur son décours, sur comment elle évolue. C'est la situation clinique. Alors clinique, ça veut dire être au pied du lit du malade.
Ouais.
C'est-à-dire c'est des gens qui sont en continuité avec et qui vont percevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas à un moment donné, mais sans pouvoir forcément l'objectiver. Et c'est ce travail d'équipe qui faisait, et après avec d'autres corps professionnels, qui faisait qu'à un moment donné, on pouvait répondre à certaines choses qui sortaient de l'ordinaire. Aujourd'hui, on en arrive à l'inverse, je dirais, le patient est décédé, mais on a suivi le protocole. Et là, on ne risque rien. Par contre, osons sortir d'un protocole, il y a intérêt à ce que tout se passe bien, parce que là, on va regarder à la virgule près tout ce qui s'est passé. Et l'incidence aujourd'hui de cette maîtrise comptable, avec de plus en plus d'équipes qui vont travailler en 12 heures. Et comme l'a très bien écrit un directeur, c'est très bien, on supprime des temps de transmission dont il y aura moins de sources d'erreurs. C'est un mépris total de ce qu'est notre approche du soin. C'est-à-dire, nous, c'est par l'échange et par ce colloque-là qu'on élabore justement le soin. Le soin, c'est pas une chose individualisée. C'est un travail d'équipe autour, à un moment donné, d'une souffrance, d'un dysfonctionnement que nous sommes en capacité d'élaborer. Et donc aujourd'hui, et je termine ce morceau là-dessus, c'est que plus en plus on approche le patient, la pathologie en tant qu'objet, plus on approche aussi le soignant en tant qu'objet. C'est-à-dire qu'il y a cette double action et qui est source aujourd'hui de souffrance au travail extrême. Parce que
d'accord, plus, vous le voyez ça. Oui. Donc Nicolas Bélanger.
Et c'est là aussi qu'on voit que c'est une forme de néo-taylorisme, c'est-à-dire qu'on applique des méthodes tayloristes qui fonctionnaient, par exemple, pour la production d'automobiles, aux soins de personnes, d'humains. Et c'est en ça que c'est pas adapté, quoi. Comme tu viens de le dire, Jean, on voit qu'il y a une volonté de découpage du patient, de découpage des tâches, enfin des choses qui s'appliquent très bien effectivement dans le domaine industriel. C'est globalement une volonté d'industrialisation, mais au lieu que ça soit dans le secteur de l'industrie, c'est dans un secteur de service et dans un service public, d'où une double inadaptation. D'abord parce que la personne humaine, c'est pas comme une voiture, on peut pas tout découper en tranches. Il y a des équipes qui doivent s'en occuper. Les temps de transmission dont tu parles, c'est extrêmement important. C'est ce qui permet de faire vivre une équipe autour
bien
du
sûr,
soin.
Ouais.
puisque le on n'a pas une machine en face de soi, on a un être humain, donc avec des affections non seulement physiques, mais également psychologiques, psychiatriques. Le soin doit être global. On a énormément dénoncé depuis 10 ans, 20 ans une spécialisation trop poussée du travail médical où on soignerait plus des personnes mais des organes. Eh bien, le processus d'industrialisation en cours va dans le mauvais sens. Il renforce cette tendance à un découpage de la division du travail soignant autour de la personne qui du coup est la seule en fait à pouvoir les coordonner. Et comme c'est une profane, c'est pas une professionnelle, que elle est malade, qu'elle n'a pas un regard objectif sur sa situation, etc. C'est la dernière qu'on écoute de plus en plus avec ce système-là. Et les temps de transmission, eh bien, d'après Taylor, ce sont des temps morts. C'est ce qu'il essayait de chronométrer pour faire disparaître. Ouais. Parce que ça coûte de l'argent. Et les financiers, enfin, les gestionnaires nouvelle mode
reprennent ce credo et
oui cherchent à rendre l'hôpital moins coûteux, donc ils vont chercher à supprimer les temps morts. Simplement, les transmissions, qui sont un moment très important, ne rentrent pas sur leur carte, ne rentrent pas sur leur radar, puisqu'ils ont une vision individualisée aussi des soignants. Les soignants, ce sont des facteurs de production plus ou moins efficaces. La notion d'équipe, par exemple, est absente des référentiels de soins les plus récents, alors que c'était une base des façons de soigner il y a 20 ans, 30 ans.
Et tout ce qui n'est pas... à chaque fois qu'on ne peut pas mettre un indicateur finalement derrière... On zappe un peu
complètement.
Le caractère humain.
Complètement. Et de préférence, un indicateur individualisé. Mmh. Ce qui est complètement absurde dans un endroit où c'est une activité avant tout collective. Mmh. Et d'ailleurs, c'est dernier point là-dessus. Les gestionnaires actuels disent oui, les soignants sont pas assez efficaces, ils sont pas assez efficients, tout ça. Et donc, on va mettre des indicateurs pour regarder leur efficacité au niveau individuel, en plus, qui est complètement absurde, parce que avec la notion de collectif de travail, eh bien, les gens s'investissaient beaucoup plus.
Oui, bien sûr.
Ils étaient prêts à faire des tas de choses qui n'étaient pas comptées, voilà. Parce que c'était bien pour le patient, parce que c'était bien pour l'équipe, et donc ils pouvaient s'investir 10 fois plus.
D'accord. Oui, Jean Vigny.
Oui, on assiste à des rébellions dans certains services par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, on estime que je vais parler de soignants et infirmiers, que il y a des secteurs où le temps de travail d'un infirmier ou d'une infirmière en service est de l'ordre de 32% sur son ordinateur. Et il y a des médecins qui sont intervenus, notamment en psychiatrie, c'est le secteur mon secteur d'élection, et qui sont rentrés un jour dans les bureaux, on dit vous sortez de là, vous repartez dans les services, je veux plus voir un soignant derrière un ordinateur.
Vous retournez voir vos patients.
qu'est-ce qu'ils font derrière un ordinateur pour expliquer justement?
Ah ben il faut remplir chaque fois qu'on donne un médicament. On a des transmissions ciblées au lieu d'avoir des transmissions orales collectives. On a des cases à remplir.
C'est le codage, tout le processus de surveillance, d'encadrement de l'activité.
Les observations ne rentrent pas dans la case, donc il faut se plier aux observations telles qu'elles sont préécrites, etc. Et en même temps, ça renvoie au contrôle, puisque comme me disent certains cadres sup, mais je sais combien de temps vous passez sur l'ordinateur et combien de temps vous avez travaillé. C'est le paradoxe le plus total, parce que, alors, soi-disant, plus on rentre de données sur l'ordinateur, plus on est censé avoir travaillé avant. Mais moi, je vais vous citer un effet pervers auquel j'avais assisté. Mon métier, c'est de délivrer des soins, de donner les médicaments, etc. Donc ça fait partie de ma tâche en base. Donc c'est normal que je donne des médicaments. Un jour, ils ont eu l'idée, avec les nouveaux logiciels, de faire... Alors quand un patient ne prenait pas son traitement, là par contre, on signalait que tel patient n'avait pas pris son traitement en essayant de comprendre pourquoi et en l'expliquant. Là, ils ont inversé le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut cocher toute prise de médicaments d'un patient, quel qu'il soit, pour contrôle qualité, pour pouvoir prouver qu'on a effectué les soins pour lesquels on est payé. Bon. Donc, sauf on s'aperçoit que quand on a une vingtaine de patients qui ont 5 ou 6 spécialités médicales différentes, eh bien, faire toutes les croix, contrôler tout, ça prend 25 à 30 minutes.
Ouais.
Et il y a toujours des gens un peu plus futés que d'autres dans un service qui se rendent compte que si on clique en haut, on fait... majuscule et on clique en bas, toutes les croix, elles rentrent d'un coup. Sauf qu'à ce moment-là, on ne sait plus si un traitement a été pris ou pas, et donc on perd de l'information sous couvert de rajouter de l'information. Après, s'en rendant compte, ils ont fait évoluer le système. Mais on aboutit aussi à une perte,
à des effets pervers.
Alors, ce que je voulais rajouter sur ce que
tu disais, et puis on peut être tenté de tromper, justement,
Nicolas, c'est que tous les textes qui nous sont proposés aujourd'hui, nous, on les lit à l'inverse de l'exposé des motifs. Et quand on dit, par exemple, parce que quand on dit qu'on veut resserrer l'hôpital sur son cœur de métier, là, il n'y a pas de cœur. Il n'y a que de la raison économique derrière. Et un soin, comme c'était esquissé tout à l'heure, c'est aussi le repas qui va être pris, c'est le temps qu'on va prendre à une toilette, c'est comment l'environnement est perçu. Nous, on dit que dans les établissements, que ce soit du jardinier au cuisinier, à la personne qui va intervenir dans l'environnement de la personne soignée, ça avait été étudié du côté de la cancéro notamment, que le pronostic d'évolution favorable et ou de guérison d'une certaine maladie, au-delà du soin direct, c'est de 30 à 40% tout ce qui se passe autour.
D'accord. Ouais.
Et pour nous, c'est des pertes de chance aujourd'hui pour les patients, la façon dont justement ils sont traités comme des mécaniques.
Ouais, ça renvoie à ce que Michael Power, qui est un auteur anglais qui a travaillé sur les audits, appelle la mise en place d'une société de défiance. Lui, il avait sorti un bouquin, il l'appelait la société de l'audit, où il observait ce phénomène qui s'est développé avant en Angleterre, de mise en place d'audits sur tout et n'importe quoi, et il concluait que ça aboutissait à mettre en place une défiance très importante entre les acteurs qui finalement est contre-productive.
On est en pleine dedans aujourd'hui.
Oui, puisqu'on ne fait plus confiance aux gens, on suppose qu'a priori, ils risquent de faire des bêtises, donc on veut les en empêcher, donc on les contrôle. Et du coup, ça revient à étouffer le fonctionnement professionnel orienté vers le patient. Même si ce fonctionnement n'est pas lui-même, par ailleurs, exemple de défaut. Mais ça va pas dans le bon sens. J'aimerais rebondir sur l'histoire du cœur de métier là dont tu as parlé, parce qu'effectivement c'est une justification quelque chose qu'on entend souvent, mais ça, à mon avis, c'est largement une justification. Je l'ai vu sur un chantier particulier d'une agence qui a été l'ancêtre de l'actuelle ANAP, l'Agence nationale d'accroissement de la performance. Il s'agissait de mettre en place un dispositif pour recentrer les infirmières sur leur cœur de métier. Il disait, alors bon, évidemment, tout le monde était pour, à commencer par les infirmières qui disaient, super, on va enfin pouvoir s'occuper de nos patients. Et en fait, l'idée, c'était de redécouper les tâches en externalisant, c'est-à-dire en passant une partie des tâches des infirmières à des salariés moins payés, les aides-soignantes, de manière en fait à faire diminuer la masse salariale. Et les aides-soignantes étaient elles-mêmes sorties du service, rassemblées dans ce qu'ils appelaient un pool commun à plusieurs services, donc elles tournaient, donc elles étaient beaucoup moins au courant de ce qui se passait dans le service. Et au final, on pouvait réduire le nombre total d'aides-soignantes, réduire donc considérablement la masse salariale, et c'était ça qui était appelé se recentrer sur son cœur de métier.
D'accord.
Et en pratique, ça faisait des économies avant tout. C'était la raison d'être.
Oui, on voit bien ici les effets pervers de ce.
Voilà, parce que la qualité des soins pour le patient, du coup, n'a jamais été l'objet
prise en compte,
n'a jamais été observée.
Alors, on va y revenir juste après la deuxième pause musicale. À tout de suite. Many social ills, society breeds, it's like sobriety kills the reality that we breathe. There's no need to deceive, to the eye of the beholder I can't see. So many social ills, society breeds, it's like sobriety kills the reality that feeds off the air that we breathe. There's no need to deceive, to the eye of the beholder I can't see. Bonsoir à tous, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Donc c'est l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic. Aujourd'hui, on traite de l'hôpital public et on s'interroge sur son avenir. Deux invités, donc Nicolas Bellorget, donc sociologue, et puis Jean Vigne, donc syndicaliste. Donc dans cette partie, nous traitions un peu de l'impact de ces réformes de l'hôpital sur la qualité des soins, l'impact sur les patients. Donc Jean-Vigne, vous vouliez intervenir en particulier là sur ce point.
En particulier, ou expliquer un peu, parce qu'on parlait des contrôles exercés, parce que la défiance, contrôle, et puis bon.
Oui, la défiance.
Après,
des,
sont arrivés
des soignants.
L'accréditation, la certification. Il y a eu la V1, la V2, etc. sur l'établissement. Moi, je me rappelle quand la V1 s'est mise en place.
Alors la V1, c'est
la première vague d'accréditation.
D'accord. Ouais.
Qui a évolué. Je sais même pas à combien on est aujourd'hui. Parce que, franchement, là, j'ai décroché. Sur,
alors, il faut que l'hôpital soit accrédité.
Voilà, il fallait que l'hôpital soit accrédité. Il était noté sur certains items. Donc, à la fin, il fallait que l'hôpital remplisse les items sur lesquels il y avait une critique pour qu'il puisse être accrédité. Et puis ça a une influence sur les dotations budgétaires, bien entendu. Et donc, pour revenir à la V1, je me souviens d'un cadre qui nous avait dit, alors, qu'importe que le soin soit fait, du moment qu'il est coché et répertorié. Je n'invente rien.
D'accord.
Et l'important, c'était la traçabilité, le fait que ce soit marqué, et pas forcément que c'est été effectué. Quand les visites d'accréditation passaient, au début, syndicalistes, on se disait, c'est chouette, on va pouvoir raconter tout ce qui dysfonctionne dans l'établissement. Donc, dans le secteur public, ça arrivait à se passer avec certains syndicats combatifs qui ne mâchaient pas leurs mots. Dans d'autres boîtes, comme les cliniques privées, on se débrouillait ce jour-là pour que les syndicalistes soient en repos ou soient ailleurs. Et en inculquant l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire que si vous dites du mal de votre entreprise, attention, on va perdre des moyens.
Oui, on va pas être certifié. Donc,
on va pas être certifié, on va perdre des moyens. Donc, ça voulait dire qu'on ne pouvait même plus, soi-disant face à cette certification, à ce contrôle de qualité, exprimer ce qui ne fonctionnait pas.
D'accord,
et
ouais.
Petit à petit, c'est rentré dans les esprits et c'est devenu une culture dans l'entreprise. Voilà un autre des effets pervers qui sont induits par ces systèmes-là.
D'accord. Ouais. Alors, Nicolas Bélanger.
On assiste en fait à la mise en place d'un référentiel qui vient encore une fois de la production marchande du secteur privé. C'est-à-dire que la qualité dans l'absolu, c'est bien de vérifier la qualité des soins. Je vois pas absolument qui pourrait être contre. Ce qui est amusant, c'est de voir dans quel contexte ça s'inscrit. Et alors ça s'inscrit dans un contexte de rationnement des moyens. Il y a de moins en moins de moyens dans les hôpitaux pour soigner correctement les gens. Et on va mettre, parallèlement à ça, une certification qualité, ce qui est une manière de montrer du doigt les soignants en leur disant « Ah bah vous voyez, s'il y a un défaut de qualité, en fait c'est de votre faute. C'est parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. » Alors que fondamentalement, le rationnement des moyens, qui est énorme, induit de la non-qualité. Induit une mauvaise prise en charge des patients. On évoquait tout à l'heure une étude épidémiologique qui avait montré, par exemple, que les chances de survie d'un patient étaient plus fortes dans une opération chirurgicale quand il y avait une infirmière anesthésiste en plus à ses côtés. Or, avec le rationnement des soins, on a de moins en moins de chances d'avoir cette infirmière anesthésiste supplémentaire.
D'accord, donc on a moins en moins de chances de survivre.
Exactement. Et c'est ça le principal facteur de non-qualité, c'est le rationnement. En Angleterre, on voit ça de manière beaucoup plus claire qu'en France, les débats sont beaucoup plus tranchés. Quand il n'y a pas suffisamment d'argent dans le NHS, le National Health System, donc le système hospitalier anglais, eh bien, la qualité se dégrade et ce sont les patients et la santé des patients qui en payent le coût, qui payent les pots cassés. Alors qu'en France, c'est beaucoup moins visible. Mais le phénomène, au fond, est le même. Il n'y a pas suffisamment d'argent, la qualité des soins se dégrade. Et avec ces systèmes d'indicateurs qualité, ça revient en fait à dire aux soignants « Ah mais s'il y a de la mauvaise qualité, c'est de votre faute. C'est parce que vous n'avez pas bien fait votre travail. » Et il y a énormément de culpabilisation de ce fait-là et qui aboutit aussi à masquer le problème principal.
Jean-Vigne, vous avez peut-être un retour d'expérience sur le sujet.
Deuxième tranche justement de culpabilisation, c'est que dès lors qu'une équipe va revendiquer un soignant de plus, on va avoir des experts qui vont débarquer sur l'équipe, qui vont auditer, regarder, faire des contrôles. Ah mais non, vous êtes mal organisé. C'est que vous ne savez pas soigner, vous ne savez pas vous organiser. Donc on a un facteur de culpabilisation supplémentaire. Et là, effectivement, c'est la fuite en avant. Une autre chose que je voulais citer qui a fait scandale dans nos professions il y a un peu plus d'un an et demi, deux ans, où on avait saisi la direction générale de l'offre de soins en disant là, vous vous arrêtez, la haute autorité de santé, parce que sinon ça va aller très mal, c'est quand ils ont commencé à vouloir mettre en place des protocoles de bientraitance. On a dit là, vous êtes dans le mépris absolu. Nous sommes formés pour être des soignants. Nous avons une culture de soignants. Et que des experts viennent à nous maintenant nous apprendre la bientraitance, c'est que un constat d'échec du système de formation que vous avez mis en place, un constat d'échec du fait qu'il n'y a plus ce travail dynamique qui se faisait en base dans les équipes, ou si quand il y avait des équipes constituées, si quelqu'un était maltraitant, que ça ne durait pas longtemps, où la personne allait en formation, où il y avait des systèmes de régulation interne qui permettaient d'éviter ça. Aujourd'hui, comme on a de plus en plus affaire à des pratiques individualisés avec des gens qui sont seuls pour faire des choix et qui n'ont personne vers qui se retourner et qui sont soumis à plusieurs systèmes de pression. Effectivement, nous, on dit des fois en termes de constat dur, c'est que du personnel maltraité naît la maltraitance. Mais pas la maltraitance violente, volontaire, la maltraitance par défaut. Oui. Il y a les directeurs d'EHPAD, dernièrement, qui ont lancé un cri d'alarme en disant « nos institutions sont aujourd'hui maltraitantes ». C'est pas des soignants, c'est pas des syndicalistes, c'est la conférence des directeurs d'EHPAD. On n'a pas les moyens.
Les EHPAD sont financés de la même manière.
On n'a pas les moyens en qualité et en quantité de professionnels formés. Et aujourd'hui, il faut en rentrer, je sais plus comment ça s'appelle, les nouveaux contrats des jeunes. On en parlait au débat le week-end dernier, j'étais à Sarlat avec les coordinations des comités de défense des hôpitaux de proximité avec directrice et des gens qui travaillaient en EHPAD en disant mais on marche complètement sur la tête, on nous envoie des gens qui ont 20 ans, qui n'ont aucune expérience professionnelle et là du jour au lendemain ils se retrouvent seuls face à la nudité d'une personne âgée, face à la défaillance du corps, et il faut qu'ils se débrouillent avec, sachant qu'ils ont 15-20 toilettes à faire dans la journée et qu'il n'y a aucun accompagnement professionnel, il n'y a aucun accompagnement psychique, parce que ce sont des situations qui sont compliquées à vivre.
Alors justement, j'avais une question un peu sur comment vont les soignants, finalement. Est-ce qu'on observe une montée de l'absentéisme des soignants? Enfin, est-ce que même, si vous dites on a des impacts un peu psychologiques sur les soignants, comment ça se traduit aujourd'hui?
Nous, on a des constats. Au niveau de la fédération, on sait que le nombre de conseils de discipline et le nombre d'affaires qui arrivent à la commission des recours, donc au ministère, la cour d'appel des conseils de discipline, est en très forte augmentation. Ça, c'est un indicateur. Et un indicateur aussi qui est très grave par rapport à la qualité de la formation aujourd'hui, depuis qu'on a universitarisé les études infirmières. L'autre indicateur, alors celui-là, il est plus compliqué parce que on a, depuis deux ans et demi, on a été convoqué à la HAS par rapport au taux de suicide dans la profession. Sauf qu'à aucun moment, on a eu de chiffres. C'est-à-dire, on sait qu'il y a une inquiétude du côté des gestionnaires du système, mais on a aucun indicateur formel de ce qui se passe. Alors après, on a des indicateurs du quotidien, ce qui nous remonte des établissements. Et l'autre indicateur, c'est aussi la fuite des professionnels. Il y a un service, l'assistance publique hôpitaux de Marseille, où je crois c'est les 12 infirmières et infirmiers anesthésistes qui ont démissionné en bloc d'un service et qui sont partis ailleurs. D'un coup, comme ça.
D'accord.
Donc, il y a régulièrement
une fuite de soignants aujourd'hui qui est...
Il y a régulièrement des histoires comme ça d'équipes soignantes qui quittent un service, qui partent collectivement parce qu'elles en peuvent plus de ce qui se passe. C'est contraire à leur éthique personnelle, quoi.
D'accord, oui. Donc ça, vous avez assisté quand vous étiez en plongée un peu dans ce monde hospitalier.
Oui, on observe, on a connaissance de beaucoup d'histoires de ce type-là. Et je voudrais revenir sur les suicides aussi. Il y a eu une affaire célèbre où le Conseil d'État a finalement reconnu que le suicide de tel cadre de santé avait une cause professionnelle. C'était un cadre qui avait été mis en place de 3 autres cadres. Et donc, il avait trop de travail et il a pas tenu.
Et, par exemple, il y en a eu 3 au CHUV de Lille il y a 2 ans, dont 2 dans le même service.
Ouais.
On parlait aussi du management, parce qu'aujourd'hui aussi les formes de management ont changé. d'une équipe avec ce qu'on appelait un surveillant à l'époque, avec une régulation interne. Maintenant, on a mis en place les entretiens individuels d'évaluation, etc., qui ont été... Alors, il y a des soignants, au début, qui se disaient « Ah, ben c'est bien, parce que je peux dire ce que je mes désirs en formation, mes besoins, etc. » Sauf que le jour où la hiérarchie ou autre voulait se débarrasser du soignant, par exemple, « Ah, mais là, vous aviez dit que vous vouliez faire une formation, mais vous n'avez pas rempli vos objectifs que vous étiez fixés. Eh, mais oui, mais il n'y avait pas l'effectif pour pouvoir y aller, j'ai pas pu... Ah, ben non, mais vous n'avez pas rempli vos objectifs. »
D'accord, avec un effet pervers.
Je donne l'effet le plus caricatural. Ouais. Mais tout ce que pouvaient dire, tout ce que peuvent dire les soignants dans ces entretiens annuels d'évaluation sont des armes qui vont se retourner contre eux. Et nous, on incite les soignants, c'est devenu soi-disant obligatoire, mais à boycotter ce genre.
D'accord, parce que c'est vrai que ça peut être vu comme une avancée dans certaines organisations.
Alors cette histoire de qualité, je voudrais revenir dessus encore. En fait, c'est vraiment, je voulais dire tout à l'heure, puis je suis passé à autre chose, que c'était décalqué du système industriel privé dans la mesure où je repense à l'ancêtre de l'ANAP à une époque, ils se sont inspirés de la fabrication des yaourts. C'est-à-dire qu'ils ont fait un grand...
Rappelez ce que c'est la NAP, hein.
La NAP, l'Agence Nationale d'Accroissement de la Performance.
C'est joli.
ils se sont inspirés des méthodes en vigueur chez Danone. Ils ont invité des représentants pour prêcher la bonne parole dans les hôpitaux. Et en fait, l'idée est simple, c'était on a augmenté la productivité de la production des yaourts et la qualité doit suivre. C'est exactement le même mode de raisonnement qui est appliqué dans l'hôpital. C'est-à-dire qu'on part du principe que il y a un budget qui va être appliqué, qu'on va chercher à faire le plus étroit possible pour des tas de raisons macro, et ensuite, eh bien, on va essayer de faire la meilleure qualité possible, ou bien, en tout cas, tout ce qui ne passe pas la barrière du contrôle qualité vient d'un défaut dans la chaîne de production. D'où l'intervention des spécialistes en organisation, intervention qui est réputée à la fois faire des économies, rationaliser, mais toujours du point de vue d'en haut, c'est-à-dire du point de vue du financeur, et augmenter une qualité qui sinon est supposée à la base défaillante chez les producteurs.
D'accord. Alors, j'avais une question sur... on a parlé de la qualité des soins au sein de, par exemple, d'un établissement. On parle aussi beaucoup de la fermeture d'établissements, enfin d'hôpitaux non rentables. Est-ce que c'est lié, c'est dans la même logique? Qui est-ce qui en décide?
Alors, oui, on a commencé à voir apparaître cette dynamique-là avec les premiers livres, les cahiers noirs ou livres noirs, que ce soit des hebdomadaires connus. On commençait à sortir le livre noir des urgences, le livre noir des maternités, etc.
D'accord.
Et qui était une arme absolue, effectivement, pour commencer à entamer cette procédure de fermeture. Alors, un jour, on a dit, ah ben, les maternités de moins de 300 accouchements, vous comprenez, les professionnels, ils n'ont pas assez d'activité, ils perdent leur qualité professionnelle, il faut les fermer, elles sont dangereuses. Aujourd'hui, la norme, pour une maternité, pour avoir quelques chances de survie, hors exception géographique, ça tourne entre 2500 et 3000 accouchements. Vous voyez comment, à travers les normes, on a
passé de 300 à 3000.
Dernièrement, quand on veut fermer une maternité, il y a un décès de bébé. On va mettre un éclairage médiatique sur le décès de ce bébé. Or, des bébés, malheureusement, dans les maternités, il en décède 70, quelque part. Et tout ça, on n'a pas l'éclairage médiatique. Dès qu'on voit l'éclairage médiatique arriver sur un dispositif, on sait que derrière, ce dispositif, à terme, est condamné. Donc, est apparu un mot qu'on ne connaissait pas dans le langage, le désert médical.
Bien sûr.
Donc, on a petit à petit, comme ça, créé. Alors, il y a eu les maternités, puis il y a les services d'urgence. Aujourd'hui, c'est les réanimations. On met en place des SMUR, mais il y a des régions, le SMUR, quand il neige, ah oui, mais on vous a donné un hélicoptère. Mais l'hélicoptère, il décolle pas toujours, etc., etc. Donc, en même temps, il y a une influence sur le territoire, parce que les populations, aujourd'hui, font le choix quand elles ont des enfants ou la proximité de l'école, la proximité de l'hôpital, la proximité des soins, et dont l'aménagement du territoire subit un contre-coup de cet effet-là. Et après, bon, nous, à force, enfin, avec la coordination des comités de défense et les autres syndicats et un collectif qui s'appelle Notre Santé en Danger, on a commencé à faire la cartographie, on peut l'anticiper. C'est-à-dire, on sait que dans tel service, quand ils vont fermer, ou le service de réa, ou tel service de chirurgie qui est nécessaire derrière, on sait que dans les mois qui vont suivre, c'est l'autre service qui va fermer parce que il n'y a pas on appelle ça les lits d'aval, où il n'y a pas les soins nécessaires pour pouvoir accueillir les patients selon l'activité des urgences, etc.
Et
donc il y a un effet domino qu'on peut aujourd'hui décrire. Et donc l'objectif maintenant, c'est de faire des grosses concentrations hospitalières. Et les quelques hôpitaux locaux qui restent sont spécialisés plus en gériatrie ou en médecine chronique. Mais bon, pareil, j'étais à Sarlat donc le week-end dernier pour rester en Dordogne. Mais le nombre de SMUR qu'on a vu démarrer pour partir sur Périgueux, vous avez une fracture grave aujourd'hui à Sarlat, vous pouvez plus être soigné par l'hôpital de Sarlat, vous êtes envoyé à Périgueux, donc à plus d'une heure de route.
Et ceci procède encore et toujours d'une stratégie d'économie, enfin d'une volonté d'économie des deniers publics qui se traduit par une raréfaction des services publics. Et les gestionnaires en question sont convaincus que la dépense de soins est proportionnelle à l'offre. Enfin, pas exactement proportionnel, mais est augmenté par l'offre. Et que donc, en réduisant l'offre sur le territoire, on réduira la dépense de santé. Donc, oui. dans ton exemple, ça veut dire que si des patients sont transférés à Périgueux, plutôt qu'ils puissent se faire soigner aussi à Sarlat, selon ce modèle, ça devrait finalement coûter moins. Ce qui n'est pas du tout évident.
Ça remet en cause l'universalité du service public.
C'est pas du tout évident empiriquement que ça aboutisse à des économies au niveau de la fermeture des petits hôpitaux. C'est pas du tout évident que la fermeture des petits hôpitaux permette de telles économies. Et surtout, ça dégrade considérablement l'accès aux soins. C'est pour ça que maintenant il y a des études qui sortent régulièrement sur l'accès, combien de temps est-ce qu'il va falloir mettre pour pouvoir accéder à un hôpital correct.
Ouais.
Donc les dirigeants commencent à réfléchir à la question, à s'inquiéter un peu de ça. Mais l'orientation, ça a été de fermer des lieux d'offre de soins pour faire des économies, sans encore qu'il y ait eu d'études approfondies, de réflexion approfondie sur les conséquences que ça avait sur la santé publique.
D'accord, merci. On se retrouve juste après la dernière coupure musicale de l'émission de ce soir.
Ce matin-là, dans le noir, maintenant qu'il n'y a plus de dents, qu'est-ce que je vais lui dire à ma pipi? Alors maintenant, me lève, fraîche, me lève.
Bonsoir à tous. Donc, on vient d'écouter Boris Vian avec le blues du dentiste, qui était en fait un plombier. Donc, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel et on parle de l'hôpital public et de son avenir. On était en train de parler des questions de qualité et d'indicateurs. Donc Nicolas Bélorger voulait intervenir. Après, on essaiera de passer un peu aux solutions pour modifier un peu les solutions à apporter à l'hôpital public.
Ce qui me frappe à chaque fois dans ces histoires d'indicateurs de qualité, c'est que l'intention derrière n'est pas du tout celle de la qualité, c'est celle des économies à réaliser dans le secteur de la santé. Mais que, comme politiquement c'est difficile à vendre, de dire eh ben on va faire des économies, on fait passer ça, c'est une logique de justification, on le justifie par un travail sur la qualité. Et donc l'idée de dire il n'y a pas suffisamment d'interventions suffisamment d'accouchements dans telle maternité, dans tel hôpital de proximité, il faut le fermer, à l'origine, c'est pour réaliser des économies et c'est habillé de manière politiquement acceptable avec ce discours sur la qualité, mais qui n'est qu'une justification a posteriori.
D'accord. Donc,
oui, je rajouterais que socialement, ce ne sont pas forcément des économies qui sont produites. Parce que des fois, on peut avoir des pathologies qui vont s'enquister, qui vont se chronicisser, qui seront beaucoup plus difficiles à soigner.
Oui, alors ça, est-ce que c'est
que c'était pris
c'est
en première intention
ben,
oui, il y a des études qui ont été faites autour de ça. Moi, après, on a l'impression qu'en fait, c'est le circuit de financement, c'est-à-dire l'argent qui gravitait, l'argent de la solidarité, des cotisations sociales, intéressé au niveau des liquidités, il fallait qu'il puisse circuler dans un système générateur de profit. Que effectivement, le soin en tant que tel, on le pressure au niveau des économies, mais par contre, sur certains matériels, ou le prix de médicaments, par exemple, on a des médicaments qui ont des prix totalement injustifiés, il y a du matériel médical qui a des tarifs totalement injustifiés, du style la lunette de WC aux États-Unis, selon qu'elle était faite pour l'armée ou selon qu'elle était faite pour le tout venant, pouvait voir son prix qui décuplait. C'est pareil pour du matériel médical, qui est aussi parfois du matériel tout venant, mais dès lors qu'il est estampillé matériel médical, voilà, il rapporte plus cher à cause de ça. Mais sinon, nous, ce qui nous interpelle, c'est que cette économie-là n'est pas une économie sociale. C'est une économie qui vise justement à faire tourner. Parce que l'équivalent du budget de la santé, c'était un peu plus que l'équivalent du budget de l'État. Donc tout ce système, toutes ces liquidités qui tournaient dans les systèmes solidaires sans rentrer dans les circuits financiers de profit, a aiguisé les appétits après les premières crises. Les premières crises financières qui avaient démarré en Californie, etc., quand il y a eu l'accord global sur le commerce et services, c'était la faculté de capter ces financements-là pour les faire tourner dans le système capitaliste, en fait.
D'accord. Donc face à cela, quels sont un peu les mouvements sociaux ou comment s'organisent un peu les syndicats dans le milieu hospitalier, quels sont les mouvements un peu de résistance ou de proposition face à ces changements?
Alors, il y a un mouvement tout récent qui s'est mis en place. Parce que là, on a des élections professionnelles la semaine prochaine.
Ah, d'accord.
Donc, l'année qui précède les élections professionnelles est très peu propice aux unités syndicales et à mener des bagarres collectives. Tout le monde se regarde en chien de faïence, etc. Ça a poussé des équipes, parce que pendant ce temps, les restructurations vont montrer, on supprime des RTT, etc. La pression augmente sur les soignants. Et il y a eu une initiative qui est partie de l'hôpital de Caen au printemps dernier, d'une intersyndicale. Au départ, il y avait 3 ou 4 des syndicats principaux, dont le nôtre, et qui a appelé tous les autres hôpitaux qui étaient en lutte à venir les rejoindre pour faire une assemblée générale, pour passer par-dessus les états-majors syndicaux, en disant pour nous, ça ne peut plus durer. Quoi. Parce qu'on s'aperçoit que les gouvernements ne sont pas idiots. Ils vont attaquer un hôpital, un endroit de la France, puis ils vont attaquer un autre, mais à 500 km, hein, et ils vont restructurer comme ça, pas d'un coup, pas massivement, mais de façon perlée. Donc il y a une résistance qui se met en place, puis cette résistance finit par faiblir, mais il n'y a pas de mouvement d'ensemble pour la porter. Donc, il y a eu cette... Et à Caen, on a eu une grande surprise, c'est qu'on se retrouve 50 établissements représentés de toute la France qui répondent à l'appel. Donc, il y a un mouvement qui s'est mis en place, qui s'appelle les hôpitaux en lutte contre... Les établissements en lutte, parce que c'est en train de s'élargir, contre l'austérité, austérité avec un grand H. Mmh. Donc, on nous accuse d'avoir fait une faute d'orthographe, mais on n'avait pas fait une. Ça a permis de créer un sigle, etc. Donc, on a eu une deuxième assemblée générale à Nanterre un mois plus tard pour commencer à structurer ce mouvement. Là, par 77 établissements représentés. On est revenu à Caen parce qu'il y avait une manifestation sur un fameux plan de retour à l'équilibre. Et là, dans la ville de Caen, on avait rarement vu ça, mais il y avait plus de 600 soignants qui étaient en manifestation entre l'hôpital de Caen et la préfecture. Et on en a fait 2 autres à Paris, central, mais dans un objectif très précis. Comme il y avait le vote, enfin, c'est pas fini, ça finit le 1er décembre, le vote de la loi de financement de la sécurité sociale. On s'est mobilisé pour interpeller les députés et les sénateurs sur la responsabilité qu'ils prenaient, parce que c'est même des sénateurs et députés qui votent la loi. C'est les mêmes qu'on retrouve dans la rue le jour où on ferme leur structure locale. Et en disant, mais votre responsabilité, aujourd'hui, vous êtes en train de l'engager. Bon, ça, on n'en est pas encore là, de la prise de... Mais si certains prennent conscience aujourd'hui des incidences de ce qu'ils peuvent faire. Après, bon, pour balayer, aller très très vite sur... Oui, il y a besoin de personnel, donc il y a besoin de financement. Alors, est-ce que c'est un élargissement de l'assiette de cotisation? Nous, on critique beaucoup, parce qu'il y a 30% de financement qui viennent de la CSG aujourd'hui, la contribution sociale généralisée. Nous, on est plus axé sur la cotisation, sur le salaire.
Oui.
Comme un mode de financement, pour d'autres raisons que je développerai pas là, qui sont mécaniquement. Donc, la formation, les équipes pluridisciplinaires, et puis la détermination des effectifs, où les soignants aient leur mot à dire et que ce ne soit pas qu'une condition économique. Alors, pour finir, dernier point, voilà. Sur les déserts médicaux, par exemple.
Oui.
Et si on dit, on peut reconnaître que pour certains actes chirurgicaux, on peut pas le faire une fois tous les 6 mois, il faut le pratiquer quasiment en routine pour garder l'habileté, le garder en fréquence. Mais la solution est simple. Les blocs opératoires sont quasiment normés aujourd'hui. Il suffit de déplacer les équipes. Tout ce qui est chirurgie programmable peut être fait par des équipes qui se déplacent avec un programme sur tel jour, bon, pas sur 50 établissements,
mais oui,
une
sûr,
même équipe sur une région donnée à 50 ou 80 kilomètres peut avoir travailler sur un CHU, donc avoir un travail d'excellence et travailler avec des professionnels d'excellence, et 2 jours par semaine aller intervenir sur tel établissement sur de la chirurgie programmable. Ça, c'est des solutions qu'on discute dans nos collectifs, etc. Voilà. Il y en a plein d'autres, mais...
D'accord, bah merci.
Et surtout le financement.
Merci, en tout cas, Jean-Vin.
Dernier point, si.
Oui.
C'est...
Rapidement.
Celui qui tient la clé de voûte, c'est la détermination démocratique des besoins de soins et de l'organisation des soins.
Ouais.
Voilà, au niveau là en travaillant avec les politiques locaux, avec les associations de patients, les professionnels et l'administration sur le territoire.
D'accord. Bah merci, Nicolas Bellorget, peut-être un mot pour terminer.
Sur les perspectives d'avenir, l'important, je pense actuellement, c'est de mettre suffisamment de sous dans le système. C'est très simple. C'est un débat qui a été un petit peu occulté en France, qui est beaucoup plus visible en Angleterre. Et le niveau du financement conditionne largement le niveau de qualité des soins.
D'accord. Ben, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Donc cette émission est téléchargeable sur le site fondation-copernic.org ou sur le site Mode d'emploi. Elle est rediffusée mercredi prochain à 7h du matin. La prochaine émission de la Fondation Copernic, vous pourrez l'écouter le 26 décembre, donc juste après Noël, sur les inégalités sociales en Ile-de-France. On se quitte, on écoute Bonobo avec Noctoré.
Bonsoir.
Au revoir.